Bienvenue sur les antennes de Principe Actif et d'HDR. Le pire reste à venir. Le pire, c'est qu'on est fini par le croire. Big up à toutes les équipes salariées et bénévoles de nos deux antennes. Et puis surtout à vous, amis auditrices et auditeurs. Au menu de cette matinale du mardi 4 juin 2019, nous serons au téléphone notamment avec Clément Bresciani du collectif Alternativa Rouen pour vous parler du projet de contournement autoroutier A133, A134. Voilà, qui fait grincer des dents du côté de l'agglomération rouennaise. Il y a notamment des ateliers militants contre ce projet à l'initiative d'Alternativa Rouen. On en saura plus donc avec Clément Bresciani au cours de cette émission. Et puis on passera également un coup de téléphone à Jérémy Tomzik, programmateur du festival Ça sonne à la porte. On vous rappelle évidemment, si vous n'êtes pas encore au courant, que ça a lieu ce samedi 8 et dimanche 9 juin du côté de Grosseuvre et qu'on y sera avec la radio Principe Actif pour vous faire vivre l'événement. On jettera une petite oreille aussi à un des extraits du projet 1090 mené notamment par le psychologue Frédéric Garcia Suarez du côté de la maison de retraite Azemia. On en avait déjà parlé les semaines précédentes. Voilà, ce matin on écoutera un petit extrait. Et puis on poursuivra en lien avec ce festival Ça sonne à la porte l'exploration de la programmation musicale de cette 14e édition du festival Ça sonne à la porte. On rappelle donc ce week-end à Grosseuvre. Et justement pour débuter cette émission et se dire bonjour en douceur et en musique, on va écouter un des extraits de la programmation. Tahiti 80, un groupe rouennais. On va écouter le morceau Extraordinary. Ils seront donc à l'affiche de ce festival Ça sonne à la porte. Extraordinary, extrait d'un album qu'on peut retrouver sur Bandcamp de Tahiti 80.
Don't
Les Rouennais de Tahiti 80 avec le morceau Extraordinary à retrouver à l'affiche de cette 14e édition du festival. Ça sonne à la porte du côté de Grosseuvre. Ils joueront plus particulièrement samedi 8 juin prochain.
Ouais, salut la matinale.
Hi, principe actif.
Bonjour.
C'est moi le bordel.
Merci pour l'émission.
C'est toujours une belle ambiance.
I like a mauvaise mauvaise.
C'était super.
Et passez une bonne journée à la matinale sur 102.4.
Et 95.9. dans le sud du département de l'Eure et 99.1 du côté de Rouen et de son agglomération. D'habitude, à cette heure-ci ou presque, nous diffusons vos messages répondeurs. Il n'y en avait pas. Je vous rappelle qu'on peut laisser ses avis, ses réactions, ses infos, ses coups de gueule, ses coups de cœur, ou tout simplement nous faire des petits bisous, et on aime bien ça. Pour cela, un seul numéro, 02 32 62 57 32, je le répète, 02 32 62 57 32. Voilà, n'hésitez surtout pas à vous saisir, à vous emparer de cette zone d'expression radiophonique qui est la vôtre, et nous on diffuse eh bien ce que vous voulez bien nous laisser. Comme il n'y en a pas, je vous propose à la place, pour se substituer à ces messages répondeurs, un autre extrait qu'on n'avait pas encore diffusé de ce projet 1090 mené du côté de la maison de retraite Azemia à Évreux, notamment par le psychologue Frédéric Garcia Suarez. Extrait qui cette fois-ci nous plonge dans l'année 1967 autour de la question de la pilule. On écoute ça tout de suite.
Les pilules. La femme, avec l'arrivée de la pilule contraceptive, au lieu de subir des grossesses, a eu le pouvoir de gérer le moment des naissances. Avant, il existait différents moyens de contraception, mais qui n'étaient pas fiables. Elle s'est développée dans les années 70. La pilule a libéré les femmes des contraintes contraceptives, comme le relevé des températures. Ces anciennes méthodes contrariaient la spontanéité et le désir. Avec la pilule, l'échange amoureux est devenu plus libre. Grâce à ce moyen de contraception, on peut avoir des enfants quand on veut. Autrefois, il n'était pas rare de rencontrer des familles très nombreuses, de 12, 15, voire même plus de 20 enfants. On a pu gérer l'arrivée des enfants au moment choisi. La pilule a permis aussi de diminuer les avortements qui étaient clandestins à l'époque, avec les fameuses faiseuses d'ange. Ces avortements clandestins étaient payants et dangereux pour les femmes. Il arrivait qu'il puisse y avoir des complications mortelles. C'est surprenant de remarquer que la contraception est surtout portée par les femmes. En réalité, il n'y a pas de véritable raison. Mais ce n'est pas demain la veille que l'on va tout changer. S'il existait une pilule pour les hommes, le risque serait qu'ils ne la prennent pas régulièrement et que la femme se retrouve enceinte. L'arrivée de la pilule a été une véritable libération.
Pas de quoi je parle, je suis très loin d'imaginer ce que veut dire le dernier râle, ne me sentant pas trop concerné par les derniers instants de la vie, quand il faudra quitter ce monde et quitte à avoir un avis pour vivre les dernières secondes. Je voudrais mourir au bord d'un lac, partir dans un beau tabarnak, finir dans l'herbe sur le dos, dernier soupir, les pieds dans l'eau. tabarnak, près d'un petit chalet dans les bois, sur un bout de terrain québécois. Je ne peux pas me rappeler, ni m'appuyer sur du vécu. Si ça m'était déjà arrivé, je pense que je m'en serais souvenu. Entre les 36 000 façons, ou bien les mille et une manières, et quitte à trouver le temps long, comme la première fois et la dernière, je voudrais mourir au bord d'un lac, partir dans un beau tabarnak, finir dans l'herbe sur le dos, dernier soupir, les pieds dans l'eau. Je voudrais mourir au bord d'un lac, partir dans un beau tabarnak, près d'un petit chalet dans les bois, sur un bout de terrain québécois. La belle province, c'est personnel, le tabarnak, même sans l'accent, au moins ça fait pas trop solennel, et ça se dit bien en expirant. Comme je ne sais pas de quoi je cause, si je ne connais rien du sujet, et quitte à voir la mort en rose, avant que ce soit pour plus jamais. Je voudrais mourir au bord d'un lac, partir dans un beau tabarnak, finir dans l'herbe sur le dos, dernier soupir, les pieds dans l'eau. Je voudrais mourir au bord d'un lac, partir dans un beau tabarnak, près d'un petit chalet dans les bois, sur un bout de terrain québécois.
Aux grands espaces québécois avec ce morceau Tabarnak de Volo, à retrouver à l'affiche de ce festival Ça sonne à la porte, 14e édition. Volo, ils joueront dimanche.
Oh bah c'est bien, et ça va passer à la télé, non?
Ça va pas passer à la télé, ça va passer à la radio.
À la radio, tiens, et c'est quelle radio alors, sans être...
Oui. Principe actif à Évreux.
Oui.
HDR à Rouen.
Oui, bah merci de toutes ces précisions.
HDR, principe actif.
Nous sommes maintenant avec Clément Bresciani d'Alternatiba Rouen. Bonjour à vous Clément.
Bonjour.
Aujourd'hui, en effet, vous avez la casquette Alternatiba, même si nos auditrices et nos auditeurs vous connaissent avec d'autres casquettes. Mais aujourd'hui, on ne parlera que d'Alternatiba. Ça vous va Clément?
C'est dommage, mais c'est pas grave.
On peut pas tout mélanger en même temps.
Non, non, oui.
Sinon, c'est la confusion. Et on va parler plus particulièrement aujourd'hui d'un événement qui a lieu ce samedi 8 juin. C'est un atelier militant contre le projet de la 132-134, le projet de contournement est de Rouen. C'est bien ça?
Oui, c'est ça. On va parler de cette autoroute. Donc, c'est bien une autoroute qui contourne Rouen. On dit que c'est un contournement en pensant que c'est une rocade, mais en fait c'est bien une autoroute dans le sens où il va y avoir un péage.
Alors,
ça fait partie des arguments qui sont souvent un peu occultés.
Alors justement, quelle est la nature, avant de peut-être peser les arguments pour et contre ce projet de contournement, mais la nature de ce projet, quel est-il? Parce que je suis pas sûr que tout le monde soit bien informé sur ce projet qui est en cours, et d'ailleurs qui est prévu pour quand?
Alors, donc c'est un projet d'autoroute qui viendrait joindre en fait la 28 qui vient d'Amiens vers Rouen, et donc au niveau d'Isnoville à peu près, un embranchement autoroutier qui irait rejoindre la case, donc Louviers-Val-de-Reuil au niveau de la 13. Et donc ça ferait comme ça une coupure qui passerait à l'est de Rouen avec une liaison au niveau du rond-point des Vaches. Donc, il y aurait trois embranchements, trois embranchements principaux, à Isnoville, au rond-point des Vaches et à Louviers-Val-de-Reuil.
L'idée, si je comprends bien, c'est de remodifier le tracé de ce qu'on appelle le boulevard industriel. C'est le contournement qui permet de passer à l'est de Rouen pour rejoindre les autoroutes du Nord. C'est ça l'idée ?
Oui, c'est ça. L'idée, ce serait de décongestionner le tunnel de la Grand-Mare, par exemple. Et donc, des véhicules qui sont obligés de passer par le centre de Rouen pourraient avoir une alternative à l'est. Voilà.
Ouais. Donc ce projet de contournement, on comprend. Est-ce qu'on peut donner quelques arguments pour et quelques arguments contre ? On aura bien compris que vous êtes plutôt un tenant du contre, mais peut-être qu'il peut y avoir quelques effets bénéfiques pour la population. Vous êtes pour, vous êtes contre, et pourquoi ?
Non, bah alors effectivement, il peut y avoir quelques arguments pour, même s'ils sont tout à fait relatifs, et donc on va pouvoir en reparler éventuellement, mais pour... une personne effectivement qui habite à Val-de-Reuil et qui travaille à Isnoville, eh ben oui, cette autoroute elle va permettre un gain de temps assez conséquent et d'éviter de passer dans le centre de Rouen. Voilà, après gain de temps qui est à mettre au regard du prix du péage qui va être, donc qui est pas encore déterminé, mais qui serait autour de 5 €. Donc ça peut être relatif et on a du mal à voir en fait énormément de personnes qui choisiraient cette option-là. Alors si on est vraiment à Val-de-Reuil et qu'on va à Isnoville, bah oui, ce sera pertinent, mais finalement, il y a assez peu de personnes qui sont dans cette situation-là. Ça représente pas énormément d'un point de vue parc véhicule. Un autre argument, c'est que, en fait, ça vient compléter un axe nord-est-sud-ouest, mais c'est plutôt au niveau national, voire au niveau européen. C'est-à-dire qu'on a un axe qui vient de Lille et qui va jusqu'au sud-ouest de la France et qui n'est pas encore complété au niveau autoroutier. Et donc, il manque, en fait, cette... Il manque cette partie, alors qui reprend la 154, c'est-à-dire qui vient d'Orléans, Évreux, et qui va jusqu'à Rouen. Donc cette partie-là n'est pas encore en autoroute. Et donc il ne reste plus que cette petite portion de Rouen où on est obligé de passer par le centre-ville. Donc c'est aussi en fait un enjeu un peu national de compléter cette autoroute-là. Et donc ça fait un peu référence en fait à des objectifs qui sont assez vieux, qui datent des années 70. Où en fait on avait un plan de développement autoroutier qui était assez conséquent, mais qui était basé sur sur une augmentation du trafic routier qui est pas tout à fait là aujourd'hui. Voilà.
Alors là, on a entendu quelques arguments pour, notamment un gain de temps, un projet qui dépasse les considérations locales et régionales, dans un tracé bien plus grand, vous venez d'en parler à l'instant. Quelques arguments contre, pourquoi se positionner contre ce projet, notamment quand on est militant chez Alternativa Rouen, ce qui sous-entend militant écolo.
Ouais, alors peut-être même sans parler tout de suite d'écologie, mais déjà juste d'un point de vue financier, c'est un projet qui va coûter à peu près 1 milliard d'euros. Déjà, c'est un projet qui coûte très très cher, c'est-à-dire que c'est à peu près 3 fois le prix d'une autoroute classique en France, parce que on passe par des zones qui sont très accidentées, et donc c'est quasiment le prix d'une autoroute de montagne en fait, cette autoroute-là. Donc le prix est déjà assez élevé, ce qui explique aussi le prix du péage. Et donc sur ce milliard d'euros, grosso modo, les collectivités prennent en charge la moitié. 500 millions, qui sont répartis entre l'État, la région, les départements, la métropole de Rouen, etc. Donc voilà. Et donc sachant qu'il y a comme pour d'autres projets autoroutiers qui ont eu lieu ces dernières années, il y a des clauses qui permettent à l'exploitant de cette autoroute-là une sécurité, c'est-à-dire que si la fréquentation n'est pas suffisamment importante pour que économiquement le projet soit viable, c'est le service public qui paye la différence. Et donc, ce qui est déjà le cas pour l'autoroute, par exemple, qui relie Le Havre à Rouen, qui a été mise en service il y a quelques années et qui n'est pas rentable. Donc, pour cet exemple-là, c'est le contribuable qui paye la différence. En fait.
Donc, des arguments économiques qui jouent pas en faveur.
Un argument économique qui est assez majeur, en fait. Et on le voit bien sur tous les projets autoroutiers qui sont développés ces dernières années. On est un peu en bout de course, c'est-à-dire que c'est des projets qui n'ont plus vraiment de sens aujourd'hui. Vraiment, on prévoyait une augmentation du trafic qui n'a pas tant lieu aujourd'hui. Et si on regarde même les chiffres officiels sur la métropole de Rouen, le trafic des poids lourds est plutôt en légère baisse depuis quelques années. Donc il y a un manque de cohérence à ce niveau-là, donc au niveau économique. Et effectivement, après, au niveau écologique, eh ben, on va détruire toute une surface naturelle qui correspond bien souvent à des surfaces agricoles, parce que c'est des surfaces qui n'étaient pas construites, donc pas constructibles pour la plupart. Et c'est elles n'étaient pas constructibles aussi pour une autre raison, c'est qu'il y a énormément de captage d'eau potable sur ces zones-là. Et donc en fait, ça peut aussi provoquer un risque pour ces zones-là qui viennent alimenter en eau potable toute la région de Rouen, notamment. Voilà.
Donc, argument contre, ça coûte très cher, on détruit des terres qui auraient pu servir aux agriculteurs, en tout cas à l'agriculture, un risque notamment sur la question de l'eau potable, et puis plus globalement, une incitation au trafic routier qui, et là on n'apprendra pas grand-chose de plus à nos amis auditrices et auditeurs, mais qui n'est pas vraiment dans l'air du temps. On est plutôt en train de se dire qu'il faudrait ralentir le trafic routier, et notamment celui des camions.
C'est ça, et ça c'est ce qui montre que on est vraiment dans une aberration pure au regard des discours qu'on a en ce moment et de l'urgence climatique qui n'est plus contestée par personne, et où on nous dit effectivement qu'il faut moins prendre la voiture, moins polluer de manière générale, moins utiliser l'énergie fossile. Et donc effectivement, on a du mal à comprendre qu'en construisant de nouvelles routes, qui du coup incite les utilisateurs à les prendre, on aille dans ce sens-là, quoi. Donc, et puis, si on va vers une tendance d'avoir moins de voitures, parce que moins de pollution, donc moins de voitures individuelles, plus de déplacements collectifs ou doux, etc., et ben fatalement, les routes vont être de moins en moins empruntées. Donc, c'est complètement impertinent de développer de nouvelles routes, surtout de nouvelles autoroutes, par rapport à cet objectif climatique, ouais.
Donc, on comprend bien pourquoi Alternatiba Rouen se positionne contre ce projet.
Eh ben oui, du coup, on essaie de faire comprendre ça aux habitants de Rouen, notamment parce que, en fait, il y a tout un discours politique et qui ne date pas d'hier, qui est vraiment sur on a besoin de ce contournement, ça va désengorger le centre-ville de Rouen. Et en fait, quand on regarde les chiffres, et qui ne sont même pas des chiffres militants, qui sont des chiffres des institutions, des chiffres des organismes officiels qui font les mesures, on voit en fait que les gains de temps vont être assez faibles, c'est-à-dire qu'il n'y a que quelques situations vraiment précises qui correspondent à pas beaucoup de monde qui vont faire que les gens vont gagner assez de temps pour pouvoir se permettre de payer le péage, et donc il y a assez peu de gens en fait finalement qui vont l'emprunter parce que ça va faire un détour, donc il va falloir ça va faire plus de kilomètres, on va payer le péage. Et on va pas gagner forcément beaucoup de temps. Donc finalement, si on regarde dans le détail des chiffres qui ont été donnés par le CEREMA, qui est le maître d'ouvrage du projet, qui est spécialiste de ce type de projet, bah finalement, les gains de temps sont très très faibles. Donc on a du mal à comprendre que le trafic va vraiment se reporter. Et donc les Rouennais vont plutôt se dire, ah bah maintenant qu'il y a un contournement autoroutier, je vais pouvoir tranquillement circuler dans l'agglomération. Et donc tout le monde, a priori, les Rouennais vont avoir ce genre de réaction-là, et ce qui va pas changer grand chose fondamentalement. Et un autre façon de voir les choses, c'est aussi que la plupart des déplacements dans l'agglomération de Rouen sont dus à des véhicules individuels et des déplacements qui font moins de 10 km. Donc ces gens-là ne vont pas aller faire un détour pour un contournement autoroutier pour des déplacements qui sont courts. Donc en fait, on voit là que l'urgence, ça serait plutôt pour décongestionner le centre-ville, plutôt de développer les transports en commun qui permettraient de supprimer tous ces trajets qui sont très courts.
On notera d'ailleurs qu'il y a une nouvelle ligne de TER qui a été inaugurée il y a peu pour compléter cette offre en matière de transport en commun. Et pour en revenir à ce projet de contournement est de l'agglomération rouennaise, on peut toujours se poser la question du bien fondé de ce type de projet et, entre guillemets, à qui ça profite. Pour en revenir également concrètement à cette journée que vous organisez samedi, c'est quoi pour Alternatiba, l'enjeu de cette journée, j'imagine que c'est de communiquer et d'informer autour de ces problématiques et de cette réflexion que chacun et chacune devrait avoir.
Oui, alors ça, en fait, ça part du fait que on remarque qu'on a assez du mal en fait à communiquer sur ce projet-là auprès des Rouennais, parce que c'est un projet qui est très complexe et avec beaucoup d'idées reçues et avec beaucoup d'arguments en fait d'un peu dans tous les sens. Et donc c'est pas toujours facile d'y voir clair. Et donc cette formation, elle n'est pas forcément, mais ça pourrait, hein, elle n'est pas forcément à première destination du grand public, mais plutôt à destination des militants qui sont déjà convaincus que ce projet-là, il est inutile, et mais qui ont besoin de se forger un argumentaire plus précis et plus impactant, plus efficace pour pouvoir, en 5 minutes, croiser un Rouennais dans la rue et pouvoir lui expliquer pourquoi ce projet il est inutile et coûteux et destructeur pour l'environnement, etc. Et donc on a besoin, en tant que militant, d'avoir de plus de connaissances en fait et de pédagogie et d'intégrer ces arguments-là pour bien pouvoir les retransmettre derrière. Donc effectivement, ça s'adresse à des personnes. Ça pourrait aussi s'adresser au grand public parce que finalement, on va parler de ces arguments-là. Donc ça permettrait à quelqu'un qui doute ou qui se pose des questions de pouvoir se convaincre. Mais c'est vrai que c'est le public qu'on touche, c'est d'abord notre public de militants et des personnes qui ont envie de communiquer en fait derrière, qui ont envie après de participer à des réunions publiques ou de débattre ou de participer à la lutte quelle qu'elle soit, parce que ça peut prendre pas mal de formes. Et donc ça va être aussi une deuxième phase de cette journée de formation. Ça va être de réfléchir ensemble à quelle stratégie pour une lutte pour ce genre de projet. Quelle cible on vise? Est-ce qu'on essaie de convaincre une collectivité de se retirer du projet? Est-ce qu'il mettrait le financement en péril? Est-ce que voilà, comment on s'y prend quoi? Et donc faire un appel un peu à l'intelligence collective pour en développer ça tous ensemble.
Donc on comprend des enjeux de communication avant tout internes, mais avec pourquoi pas la possibilité au plus grand nombre aussi de venir se renseigner. J'oubliais presque que nous aussi ici à Évreux, on a un projet de contournement routier qui pose problème avec une action en justice menée par un collectif de militants. Affaire à suivre sur ce dossier-là en particulier, mais on pour faire le parallèle, on se rend bien compte qu'il y a des enjeux de part et d'autre ce sont des enjeux de lutte, ce genre de projet qu'on appelle en tout cas dans le milieu militant écolo comme des grands projets inutiles. Et j'ajoute également pour compléter, après je vous laisse reprendre peut-être Clément si vous voulez compléter, mais qu'il y a aussi au niveau du rond-point des vaches une zone de lutte avec les gilets jaunes, puisqu'ils occupent le rond-point des vaches depuis le 17 novembre dernier, et que eux aussi se positionnent contre ce genre de projet. C'était pour compléter un peu le propos autour de ce contournement est de Rouen.
Ouais. Bah alors c'est marrant parce que pour le coup le rond-point des vaches, même avec les chiffres officiels publiés par le CEREMA, le rond-point des vaches va être plus congestionné qu'avant. C'est-à-dire qu'avec le nouvel embranchement, il va y avoir une nouvelle route qui va rejoindre le rond-point des vaches. Et donc le nombre de véhicules par jour qui est estimé avec le contournement est va être plus important au niveau du rond-point des vaches. Donc là où on a déjà un gros problème de circulation, il risque de s'aggraver dans certains points. Voilà. Et pour rebondir par rapport à Évreux, ce projet-là, il a aussi un impact sur les Ébroïciens, dans le sens où ça va de pair avec la privatisation progressive de la 154. Et donc si le projet contournement est se fait, va suivre a priori en parallèle cette privatisation. Donc ça veut dire tout le tronçon qui vient de Chartres, Dreux et qui passe par Évreux pour aller à Louviers, tout ce tronçon deviendrait payant.
Voilà, des choses dont le grand public n'a pas forcément tout à fait pris connaissance. Pour être tout à fait concret sur la journée de samedi, on le disait, les enjeux sont avant tout de communiquer en interne, mais aussi, pourquoi pas, en externe. Si je suis simple auditeur ce matin, que j'écoute notre échange et que j'ai envie de m'y rendre, j'imagine que ça pose pas de problème. Et qu'est-ce que je pourrais y retrouver sur cette journée de samedi, 8 juin ?
Ouais, non, au contraire, c'est vraiment ouvert à tous. Alors, ce qu'on va y retrouver, donc il va y avoir plusieurs temps. L'objectif pour nous, c'était pas de se cantonner à faire simplement de l'information descendante, et d'avoir des experts qui assènent des chiffres et des chiffres pendant toute une après-midi, parce qu'on sait que c'est pas digeste, on sait que c'est pas comme ça qu'on construit et qu'on s'approprie un argumentaire. Donc il va y avoir quand même une session théorique, mais voilà, l'après-midi ça dure de 14h à 19h, il va y avoir simplement une heure de théorie sur ces 5 heures. Et le reste du temps ce sera des ateliers de discussion en groupe qui vont permettre des échanges de chacun, qui vont permettre un partage de connaissances, et avec des phases de restitution en grands groupes. Donc ce sera des groupes de entre 5 et 10 personnes qui vont prendre 20 minutes, une demi-heure pour réfléchir sur un sujet et en ressortir quelque chose qu'ils vont partager après au groupe, et puis on en discutera en groupe plus large. Donc l'objectif, c'est vraiment une succession de ces temps-là d'échanges d'informations un peu descendantes et d'ateliers d'ateliers en groupe. Et en début de d'intervention, l'objectif c'est aussi de pour que tout le monde puisse s'exprimer sur ce projet-là, dire ses ressentis, ses attentes, son niveau de connaissance actuel, que tout le monde se sente bien et se sente pas forcément ignorant parmi parmi les autres, parce qu'on l'est un peu tous au final sur ce genre de sujet. Donc une phase d'expression par post-it sur des murs, on va pouvoir déjà lister tout un tas d'arguments, tout ce qui nous passe par la tête, un genre de brainstorming tous ensemble pour mettre l'après-midi en route. Donc voilà, plusieurs espaces, plusieurs façons de communiquer qui permettraient à tout le monde de trouver une place et de trouver un espace de dialogue autour de ces projets.
Donc, rendez-vous à quelle heure et à quel endroit samedi 8 juin ?
Alors, donc ça se passe à 14h. Alors, c'est à la Maison des Associations. 22 bis rue du Mont d'Urville. C'est derrière la préfecture. C'est à côté de la préfecture à Rouen. Voilà. Et donc, rendez-vous à 14h. L'après-midi, le temps dure jusqu'à 19h. Donc, de 14h à 19h. Pour ceux qui veulent venir avant avec un pique-nique, on fait un repas partagé de 13 à 14h. Et pour ceux qui voudraient rester après, on fait un apéro à partir de 19h.
Ils ont tout voilà. Prévu. Hein, on peut retrouver des infos complémentaires, notamment sur les réseaux sociaux, j'imagine, ou sur le site d'Alternatiba.
Ouais, tout à fait, sur le site d'Alternatiba, sur le Facebook d'Alternatiba, sur des sites, l'agenda militant Démosphère, par exemple, aussi. Voilà. Sachant qu'il y a un module d'inscription en ligne, un formulaire d'inscription en ligne qu'on invite tout le monde à utiliser, puisque ça nous permet, nous, de savoir... mieux combien de personnes il y aura et de préparer au mieux l'après-midi. Voilà.
Très bien. Je crois que vous vouliez nous glisser une dernière info en deux mots, Clément, pour un prochain rendez-vous un peu plus tard en juin. C'est le moment.
Oui, c'est ça. C'est que, alors, on est pas mal d'assos à lutter contre ce projet. Et donc, il y a notamment des assos qui se montent en ce moment. Donc, il y a un collectif qui regroupe ces associations qui s'appelle le collectif Non à l'A133, A134. Dont Alternatiba fait partie, dont Effet de Serre toi-même fait partie, et autres associations de la métropole de Rouen, voire alentour, des communes aussi qui sont sur le tracé, qui sont contre le projet parce qu'elles ne veulent pas voir leurs terres détruites. Et donc tout ce collectif organise une grande fête pour voilà sensibiliser, mais de manière assez assez ludique et culturelle autour du projet. Et donc ça va se passer le 22 juin dans la commune des Authieux, Port-Saint-Ouen. Ça s'appelle « Des noisettes dans l'engrenage ». Et donc ça aura lieu de 10h30 à 18h. Voilà, il va y avoir des concerts, il va y avoir des temps d'échange, des temps de formation militante, il va y avoir un peu de tout, et aussi beaucoup d'informations pour, encore une fois, mieux comprendre ce projet, et pour essayer de le... voilà, qu'il ne se fasse pas.
Très bien, merci à vous Clément. On aura évidemment l'occasion d'en reparler de cette date du 22 juin d'ici là. Voilà, en tout cas, merci à vous Clément Bréchény. Je rappelle que vous êtes membre, entre autres, d'Alternatiba Rouen, et on peut en savoir plus par votre intermédiaire autour de ce projet de contournement est de Rouen, A133, A134. Merci beaucoup à vous Clément.
Très bien, et merci pour de nous laisser cet espace de parole, c'est toujours un plaisir.
Ich bin Discounting-Faust. Ich bin
un extrait du projet assez fou. On aura peut-être l'occasion d'en reparler avec notre interlocuteur. On vient d'écouter El Maout. Le morceau, c'était Wanna Go. Et on est au téléphone avec Jérémy Tomzik, le programmateur de ce festival. Ça sonne à la porte où on retrouvera, entre autres, El Maout. Jérémy, vous êtes là. Bonjour. Vous nous entendez ?
Salut. Ouais, je vous entends.
Eh ben nous aussi, c'est parfait, impeccable. Jérémy, on va prendre le temps de parler un petit peu de cette 14e édition du festival Ça sonne à la porte. C'est pour ça qu'on vous appelle. Comment ça se profile cette 14e édition là? Je crois que vous êtes sur le site à grosse œuvre. Ça se passe comment là?
C'est ça. Bah ça se passe plutôt bien. On a eu un petit peu de pluie hier matin. On a eu du beau soleil hier après-midi. Donc on va essayer de jouer un petit peu entre les gouttes toute la semaine. A priori, la météo devrait être un peu plus clémente le week-end qui arrive. Donc ça va le faire, on va passer entre les gouttes quoi. Mais sinon ça se passe bien, ça s'installe, on commence à voir des tentes, des barrières, les scènes arrivent bientôt. Donc on commence à voir un petit peu de monde, un peu de monde au boulot.
Qu'est-ce qui reste là encore à monter, à installer d'ici samedi pour l'ouverture au public?
Alors là, on a vraiment commencé, on a fait tout le marquage du site vendredi dernier. Donc hier, on a commencé à installer les tentes. Donc là, le bar est installé. C'est le plus important, hein, vous allez me dire. Le bar
carrément
est installé. On a pas mal de tentes qui sont installées, des grosses tentes surtout. Aujourd'hui, ça va être pas mal de barriérages. C'est jeudi matin, les scènes arrivent. Et puis après, voilà, tout se monte petit à petit, quoi. Là, pour l'instant, il n'y a pas encore grand-chose. On a une journée sur site. Donc deuxième jour aujourd'hui, mais ça se monte plutôt bien.
Qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette année pour cette 14e édition? Sans doute l'info principale et capitale, c'est que ça se déroule sur deux jours pour la première fois.
C'est ça, ça fait 14 ans qu'on essaye de le faire et on a réussi cette année à passer sur deux jours, parce qu'en fait ça fait quand même beaucoup d'installations, beaucoup de préparation. Moi je travaille à peu près un an sur le festival pour le monter. Et c'est vrai que de tout monter pour une journée, c'est un petit peu frustrant. Donc là, de passer à deux jours, c'est quand même assez assez chouette pour nous. Donc voilà, la nouveauté, c'est que c'est sur deux jours. C'est que du coup, on a 26 artistes sur deux jours. Donc ce qui est quand même pas mal. Quoi d'autre comme nouveauté? On a pas mal changé le site. On a retourné pas mal de choses. Les scènes ont fait un demi-tour. On va passer aussi au jeton cette année pour le bar, pour essayer de fluidifier un peu le bar pour qu'on ait plus besoin d'attendre une heure avant d'avoir une bière. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Des petits changements comme ça, ça va pas changer la face du monde. Normalement, les gens devraient quand même retrouver leur repère. Mais l'idée, c'est toujours d'essayer d'améliorer le confort du festivalier, quoi.
J'imagine qu'il y a un camping et un camping qui était pensé pour accueillir pas mal de monde.
Alors, on fait un camping, effectivement, cette année. Vu qu'on est sur deux jours, on voulait proposer une solution de camping au moins du samedi au dimanche. Donc, ce camping est porté par le département de l'Eure et par l'asso de Hande de Saint-Cé. On n'a pas fait un énorme camping pour la première année. Donc là, il doit pouvoir accueillir à peu près 150 emplacements. Donc on verra. On ne sait pas trop en fait ce que ça peut donner. On ne sait pas si on aura 5 campeurs ou si on en aura 400 potentiels. Donc on conseille aux campeurs de venir assez tôt. Le camping sera ouvert le samedi à partir de 14h. Donc voilà, ils pourront s'installer avant l'ouverture du festival pour être tranquilles. Donc vraiment, les gens qui veulent venir camper, on vous conseille de venir un petit peu avant l'ouverture du festival, à partir de 14h samedi.
Voilà,
il y aura des douches sur place, il y aura de la sécu. Il y aura la Croix-Rouge, il y aura un petit bar pour le camping, vous pourrez manger, prendre le petit déj le lendemain matin. Enfin, tout est prêt, quoi. Tout est prévu.
En effet, tout est prévu pour vous accueillir, amis auditrices et auditeurs, et que vous soyez bien, 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 bien pour cette 14e édition du festival Ça sonne à la porte. Jérémy, on va pas forcément avoir le temps de revenir sur l'intégralité de la programmation artistique. Vous l'avez dit, il y a 26 groupes et artistes qui se produiront sur les deux jours à cette édition de Ça sonne à la porte. Moi, je voulais quand même revenir sur comment vous procédez pour faire cette programmation artistique et musical, un subtil alliage entre une scène locale dense et fournie et des artistes venus d'ailleurs avec une renommée peut-être un peu plus importante. Enfin voilà, il y a un jeu, un équilibre qui se fait. Comment vous faites concrètement cette programmation, cette ligne directrice et artistique?
Alors moi, je fonctionne vraiment quasiment que en coup de cœur. J'écoute beaucoup, beaucoup de choses, plein de styles différents. Moi, je fais de la musique aussi dans pas mal de projets, donc ça me permet de voyager et de faire pas mal de concerts, de rencontrer aussi des artistes. Et en gros, j'essaie de faire en sorte de faire une programmation éclectique qui puisse plaire au plus grand nombre. Donc, je ne vais pas m'enfermer dans un style, faire un festival que de reggae ou que de rock ou que de chansons. J'essaie d'amener un petit peu pour tout le monde, sans aller trop dans les extrêmes, parce que je sais que le public est quand même vraiment familial. Après, il n'y a pas vraiment de part local, régional, national. Ça se fait un petit peu tout seul. Ça se fait aussi en fonction du budget, parce que le budget est quand même pas énorme. Même si on arrive à grandir chaque année et avoir un budget un peu plus important d'une année sur l'autre. Il y a des beaux projets en Normandie. Il y a des beaux projets ailleurs aussi. Donc j'essaye vraiment de piocher un petit peu partout. Bon, là, je suis assez content. Il y a des choses que j'essaie de faire depuis très longtemps, comme Malten Milk, par exemple, ou Volo. C'est des groupes qui me tiennent à cœur. Ça fait 10 ans que j'essaie de les faire venir. Et donc là, je suis vraiment très content qu'ils soient là. Tahiti 80, c'est pareil. Tahiti 80, je les ai vus au Rock dans tous les états il y a, je sais pas, 15 ans peut-être. Et c'était assez magique. Il y a des nouveaux projets comme Denise qui sont absolument fous. Brian's Magic Tears, que j'ai vu au 106 à Rouen, pareil, j'ai pris une bonne claque. Voilà, il y a plein de choses. Holophonix, c'est pareil, c'est un groupe que je suis depuis une dizaine d'années. Il y a plein de trucs. Franchement, il y a plein de trucs. Je pense qu'il y en a vraiment pour tout le monde, pour tous les goûts. Et effectivement, on est une bonne, je pense qu'on est une bonne moitié de groupes locaux, régionaux, et puis le reste, c'est vraiment du coup de cœur. Quoi.
En effet, il y en a pour tous les goûts parce qu'on retrouve de la chanson, du hip-hop, du rock évidemment, du blues. Enfin voilà, ça va chercher un petit peu dans toutes les esthétiques et en effet sans chercher non plus la provocation et la chose extrême comme vous l'avez dit à l'instant. Qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre que la programmation musicale qui est évidemment le point central d'un festival de musique, mais il y a d'autres petites choses, notamment je pense à l'espace Kids pour les parents, pour qu'ils puissent venir profiter de la musique et qu'en même temps leurs enfants en profitent également. Voilà les deux, trois petits à côté importants qui font le sel de ce festival Ça sonne à la porte.
Oui, alors les à côté, donc on a effectivement, comme vous dites, l'espace Kids donc qui accueille les enfants de 3 à 12 ans. L'idée, c'est de faire un petit festival à l'intérieur du festival. Voilà, on rentre sur le festival. Sur la droite, il y a une petite entrée pour les enfants. On peut déposer les enfants pour des créneaux d'une heure renouvelables. Donc l'idée, c'est pas non plus de se débarrasser des enfants pendant 2 jours. On peut les laisser une heure pour aller tranquillement se prendre une bière et aller voir un groupe vraiment devant les crash barrières, mettre la tête dans les enceintes si on a envie. Les enfants, ils sont accueillis par le service enfance de l'aglo. Donc ils sont bien encadrés. Il y a des châteaux gonflables, il y a des jeux, il y a du maquillage, des fabrications d'instruments de musique. Enfin, il y aura plein de choses pour eux. Et on repasse toutes les heures, voir si tout va bien, les récupérer ou voir si on veut, s'ils veulent continuer un petit peu. Donc ça, c'est pour les plus petits. On a aussi un village asso, donc avec pas mal d'associations du canton, qui borde une scène, en fait, qui est la scène C. Donc la scène C, donc avec une radio, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Principe Actif, qui animera donc des émissions en direct de 16h à 21h le samedi et de 16h à 19h le dimanche. Et cette scène C, donc les interviews avec Principe Actif, l'idée c'est de voir passer les groupes de la programmation en interview, puis en showcase acoustique. Et à partir de 21h le samedi et 19h le dimanche, la scène C devient le club électro, où là il y a une programmation qui a été faite avec nos amis de Mouton Noir, donc on verra Christine, Brookline, El Maout, notamment, que on a entendu juste avant.
Voilà, ça a été pensé pour tout le monde, petits et grands. Une question, on peut toujours devenir bénévole si jamais il y a des gens qui nous écoutent ce matin qui se disent tiens, moi samedi j'ai envie de voir les concerts, mais j'aimerais bien aussi filer un coup de patte à ce festival. C'est toujours possible et comment ça se passe?
Alors pour l'instant, c'est toujours possible sur le site, donc c'est CSALP, comme ça sonne à la porte, csalp.fr. Et il y a un petit onglet bénévole. Alors par contre, il faut se dépêcher parce que là, on va très vite clôturer les inscriptions, je pense peut-être demain ou après-demain. Parce qu'on arrive à nos jauges là, donc on arrive bien. Il nous manque encore quelques personnes, on va dire 4 ou 5 personnes. Donc c'est le moment. Si vraiment vous avez envie de vivre le truc de l'intérieur, il faut se dépêcher.
Et oui, parce qu'on aura de cesse de rappeler que ces festivals existent aussi parce qu'il y a des gens qui s'impliquent bénévolement et que ça, c'est essentiel. Pour être tout à fait factuel, on ouvre les portes samedi et dimanche à partir de quelle heure?
Alors, on ouvre à 16h les deux jours. On ouvre à 16h le samedi, fermeture des portes le samedi à 1h30 et fermeture des portes le dimanche à minuit, sachant que le lundi est férié, donc vous inquiétez pas, vous pouvez rester jusqu'à tard le dimanche.
On peut, pour arriver à la fin de cet échange, rappeler qu'on peut retrouver toutes les informations sur le site du festival. Donc, vous l'avez rappelé, CSALP, voilà, c'est pour ça sonne à la porte si on cherche des infos sur les groupes ou je ne sais quoi. Qu'est-ce qu'on oublie d'important, d'essentiel, Jérémy, avant de repartir en musique et de découvrir d'autres extraits de la programmation de cette 14e édition?
Alors en plus du site, il y a le Facebook. Vous pouvez voir sur le Facebook de Ça sonne à la porte. Donc c'est pareil, vous tapez Festival CSALP. Et il y a une petite surprise à 9h, donc dans 10 minutes. Voilà, dans 10 minutes, en fait, on vous annonce tous les horaires de passage des groupes. Donc voilà, si vous voulez voir un petit peu à quelle heure passe votre groupe préféré, ça se passe dans 10 minutes sur Facebook.
Et ben voilà, dans 10 minutes sur Facebook, ça nous laisse le temps de conclure cette émission. Merci à vous, Jérémy Tobzik. Je rappelle que vous êtes le programmateur de ce festival Ça sonne à la porte, 14e édition. Ça se passe samedi et dimanche, 8 et 9 juin, du côté de Grosseuvre. Merci beaucoup, Jérémy. On se voit samedi, du coup.
Oui, à samedi.
On repart en musique. On va découvrir Is Roost Combo, pardon, je vais y arriver, qui sera donc à retrouver sur Grosseuvre. Merci beaucoup, Jérémy. Ciao.
Merci. Au revoir. Got to Bangland, tell all my boys. Got to Bangland, tell all my boys. What time I'm having in Illinois, what time I'm having in Illinois? You can there before I do, you can there before I do. Tell all my boys, huh, that I'm coming to, coming to. Coming to, tell all my boys that I'm coming to. Tell me, babe, well it's still at night. Tell me, babe, well it's still at night. Woke up in the morning, the sun was bright. Sun was bright. Sun was bright. Woke up in the morning. Right. Jim, my cotton, sell my seed. Jim, my cotton, sell my seed. Buy my baby, everything she need. Yeah, she need. Yeah, she need. Buy my baby, everything she need. Go, man. Sell my seed,
by my baby. Yeah, the things you need. Yes, you need. Yes, you need. Yeah, by my baby. Yeah, the things you need.
Live de l'Illinois Blues d'Arnaud Fradin and His Roots Combo à retrouver ce week-end, plus particulièrement dimanche pour être tout à fait précis, du côté de Grosse Œuvre dans le cadre de ce festival 14e du nom. Ce festival, ça sonne à la porte évidemment.
Mais tu sais, je commence à en avoir plein le cul. Non mais c'est vrai, c'est pas une raison parce que je donne à tout le monde des bons tuyaux que je mérite pas un peu d'amour.
T'as raison, Iggy, je t'aime.
Ah, c'est pas croyable, il faut que je m'énerve. Pour que tu me le dises, ça te coûtera 30 francs. Payable en deux fois. Qu'est-ce que tu veux comme tuyau ?
Hey, quelques bons plans comme ça, en veux-tu, en voilà, avant de conclure cette émission et de vous rappeler que vous pouvez être à l'affût sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook pour ne pas le citer. Comme le disait l'ami Jérémy Tomzik, vous aurez les horaires, l'intégralité des horaires des différents groupes, horaires de passage sur scène pour ce 14e festival. Ça sonne à la porte samedi, dimanche à Grosse Œuvre. Voilà, sur la route de Saint-André. Mais avant ça, il se passe d'autres choses. Aujourd'hui même, à partir de 18h30, ça se passe à Louviers, à l'Aglo, l'Aglo de Louviers, une conférence qui a pour titre « Une autonomie qui commence par le potager ». Donc rendez-vous à 18h30 à l'Aglo de Louviers, 1 place Torel. Voilà, sur cette conférence autour de l'autonomie alimentaire. D'autres petites choses, bah voilà, sur la même thématique, on vous rappelle que le premier vendredi de chaque mois, c'est le rendez-vous des Coquelicots. Rendez-vous à l'hôtel de ville d'Evreux à partir de 18h30, vendredi 7 juin. Voilà, le mouvement des Coquelicots pour la lutte contre les pesticides. Voilà, pour être tout à fait concret et précis, ou en tout cas essayer de l'être. Concert Modalis. Modalis, c'est un groupe ébrouissien qu'on avait eu l'occasion de découvrir sur notre antenne par l'intermédiaire de l'ami Jean-Jean, que je salue d'ailleurs, j'avais oublié de le faire, et qu'on retrouvera j'espère très bientôt. Modalis, groupe ébrouissien en concert au Matahari, qu'on avait pu découvrir sur notre antenne au cœur de la répète menée par Jean-Jean. Ils seront en concert vendredi 7 juin au Matahari, ça se passe à Évreux. Autre concert dans les bars, cette fois-ci du côté de l'Emporium Gallerium, c'est à Rouen. Également vendredi 7 juin, il y a Unschooling qu'on avait pu découvrir sur le Festival Rush il y a peu à Rouen, sur la presqu'île relais. On vous rappelle, si vous êtes groupe et que de musique, artiste musical, et que vous souhaitiez être parrainé par le 106, la clôture des dates de parrainage, c'est samedi à minuit. Voilà, donc petite info aux amis musiciens et musicienne. Des aiguilles dans une botte de foin, on en a parlé hier matin. Ça se passe du côté du Manège Tilly, samedi 8 et dimanche 9 juin, du côté d'Evreux. Voilà, si vous êtes intéressé par le tatouage, mais pas que, par d'autres concerts, des graffeurs, des photos, des Harley Davidson, ce genre de choses. Voilà, vous pouvez jongler entre des aiguilles dans une botte de foin au Manège Tilly et le festival Ça sonne à la porte. Pourquoi pas ? On vous rappelle également, on en a parlé longuement tout à l'heure avec Clément Bresciani, tant d'informations qui s'appelle Atelier militant contre la 133 à 134 contournement est de Rouen, samedi 8 juin du côté de la maison des assauts à Rouen à partir de 14h. Pourquoi pas venir chercher de l'information. Au cours de cet échange, on a parlé notamment du rond-point des vaches qui avait été délogé à de nombreuses reprises par la police. Les gilets jaunes occupaient cet espace. Mais ils ont été de nouveau délogés ce matin, mais vous pourriez quand même aller les rejoindre au Festival Jaune samedi après-midi au rond-point des Vaches, ou en tout cas à proximité. Et puis évidemment ce festival, Ça sonne à la porte, on en a parlé, on vient pas forcément dessus. Et puis écoutez-nous ce week-end pour vivre l'événement si vous pouvez pas vous déplacer. J'ajoute qu'au rayon des concerts, il y a également samedi 8 juin les scènes ouvertes proposées par la MJC Le Silo à Verneuil, Davre et Diton. Voilà, à partir de 20h30 samedi 8 juin, donc du côté de Verneuil, Davre et Diton, la MJC Le Silo, pour ces scènes ouvertes. Voilà pour les bons plans que j'avais en stock pour vous ce matin. Pour connaître l'intégralité des programmes des radios Principe Actif et HDR, et bien je vous invite à vous rendre sur nos sites internet respectifs, principeactif.net, radiohdr.net. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec le Flash RFI Monde sur l'antenne de Principe Actif. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes. Demain matin, ce sera l'ami Nicolas et qui est Mosquito qui animera la matinale. Jeudi, vous retrouverez Pauline. Et vendredi matin, ce sera l'ami Deuse. Voilà l'équipe au complète des matinales sur nos radios. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes. Ciao, 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 ciao.